Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Furia Liga podcast consacré à la 28e journée de cette saison 99-2000, pleine de suspense et de surprises. En deuxième partie, notre focus de la semaine est consacré au Deportivo de la Corogne. Les Galiciens vont-ils le faire cette fois-ci? On entre dans la dernière ligne droite, il reste 10 matchs à jouer et on se dit que l'exploit est possible. Pour m'accompagner ce soir en plateau, Elton Mokolo, bonsoir.
Salut FM, j'espère que tu vas bien.
Parfait, toi.
Je vais très bien, très impatient de raconter cette 28e journée de Liga qui est très très passionnante.
Sans oublier à la régie, notre basque bondissant Thomas Galarrague. Alors Elton, on va commencer par le milieu de tableau avec Betis, Rayo Vallecano, Espanyol Celta et Malaga Mallorca. Alors le premier match de samedi dernier, c'était Betis, Rayo Vallecano, le Betis de Nilsson et d'Alfonso qui a concédé le match nul au Benito Villamarine contre le Rayo de Julen Lopetegui, qui est dans les cages. Les Valles Blancos ont ouvert la marque à la 42e grâce à évidemment l'inévitable Fini Di Jorge. Mais les Madrilènes ont égalisé à un quart de la fin avec un très beau but de Michel. C'est peut-être même le plus beau but de la 28e journée. T'en as pensé quoi de ce but, Elton?
Bah, en fait, j'ai deux sentiments contradictoires. Alors, effectivement, le but est très bien exécuté parce que c'est consécutif à un coup de pied arrêté qui est bien travaillé. Et j'ai surtout envie de mettre en avant la faute défensive du Betis. J'ai envie de dire, quand t'es candidat pour te maintenir, quand t'as besoin de points à domicile, tu peux pas te permettre d'être aussi laxiste sur coup de pied arrêté. Alors effectivement, le rendu, il est très beau pour le Rayo Vallecano, mais enfin, j'ai quand même envie de dire, ouais, le Betis, c'est quand même un idiot utile pour employer une expression bien usitée.
Ouais, mais tout de même, ce Betis, il y a de la qualité, et on se dit que ils sont qu'à 3 points de la zone rouge, avec vu les investissements qu'ils ont fait, c'est quand même pas bon signe d'être à ce niveau-là, à quelques points de la relégation.
Exactement, bah, tu vois déjà sur en termes d'investissement, tu as pris Denilson qui est très intéressant, qui est vice-champion du monde depuis 98, tu as pris Gussie Dink quand même, qui est entraîneur vainqueur de Coupe des Champions avec le PSV Eindhoven, donc il y avait tout un tas de trucs qui te laissent à penser que le Betis devait évoluer plus haut. Et comme je dis souvent, le football, c'est pas qu'une affaire de CV. Il faut quand même travailler sur le terrain pour obtenir des résultats. Et on le voit bien sur cette Liga où tout est indécis. Le Betis n'échappe pas à la règle, à savoir que si t'es pas bon sur le terrain, il y a des équipes qui te passent au-dessus.
Tu vois le Betis descendre. Quand même, il y a des équipes qui paraissent quand même inférieures, ne serait-ce que d'un point de vue budget. Mais après, sur la forme du moment, ça peut être fatal au Betis, qui en plus a connu la Segunda il n'y a pas si longtemps.
Ouais, mais pour autant, il faudra un sacré concours de circonstances. Déjà que le Betis continue d'enchaîner des résultats qui ne sont pas bons, mais en même temps que des candidats déclarés au maintien performent, voire surperforment par rapport au Betis. Et donc, moi, ces deux idées-là, ça me paraît très compliqué qu'elles arrivent à s'imbriquer ensemble.
À Montjuïc, l'Espagnol s'est donné de l'air en battant le Celta, 3-0. Le match a basculé après l'expulsion de Coira en fin de première période. Les Galiciens ont même terminé à 9 après le deuxième jaune de Juan Fran en fin de partie. Pour ceux qui sont nostalgiques des joueurs de Ligue 1, l'ex-Marseillais Claude Makélélé était titulaire, il a joué une heure, tandis que l'ancien Martégal Jamel Belmadi est entré pour les 20 dernières minutes. Problème pour le Celta, c'est que le match était quasiment plié puisque Elton, Raúl Tamudo avait frappé deux fois en revenant des vestiaires.
Exactement, Tamudo qui a été très très bon sur ce match-là. Et moi, j'ai quand même envie de dire que c'est un acte manqué pour le Celta Vigo, parce que tu aurais pu faire un sérieux rapproché pour les places européennes. Tu payes aussi ton indiscipline avec une expulsion très précoce, ce qui fait que dans un contexte à l'extérieur, face à une équipe qui joue quand même pour se maintenir, c'était très compliqué de reprendre le dessus sur la partie. Au final, tu as un score lourd et sévère. Donc, réaction attendue la semaine prochaine face au Deportivo Alavés. Alavés, qui est actuellement deuxième du championnat, ce ne sera pas facile. Mais du côté de Balaidos, il faudra réagir pour le Celta.
Match sans but entre Malaga et le Real Mallorca à La Rosaleda. Pour les supporters girondins, on refait un petit point division 1. Le champion de France la saison dernière, Kiki Moussampa, a joué 20 minutes. Il a remplacé un certain Albert Luque. Alors on en parle souvent dans le podcast, c'est parce qu'il est, en plus il est justement prêté par Mallorca et on en dit beaucoup de bien. Mais il y a un joueur aussi qui nous a tapé dans l'œil côté Baléares, c'est le Camerounais de 19 ans Samuel Eto'o. Alors il a une histoire un peu particulière, il était formé au Real Madrid et actuellement il est prêté par la Casablanca après avoir joué dans un petit club en troisième division, qui est Leganés, qui est un club situé en, dans la banlieue sud de la capitale. Il a fait un détour par l'Espagnol, la fameuse connexion Real Madrid-Espagnol, j'ai envie de dire. Mais il a jamais, mais il a jamais porté le maillot des Pelicos avec l'équipe Fagnon. Et donc, il est arrivé cet hiver, et il a montré de très belles choses, notamment avec Diego Tristan. Il a même failli lui offrir un deuxième but. Tu penses quoi de son profil? Parce que il est véloce, on sent qu'il a du talent à revendre et beaucoup de potentiel face au cage.
Oui, mais tu l'as dit, il a du talent, mais il arrive à un âge où il faut qu'il aligne des minutes. C'est-à-dire que, aujourd'hui, bien évidemment, du côté du Real, on en parlera plus tard, il me paraît très compliqué au regard des investissements, au regard des joueurs historiques, il me paraît très compliqué pour Eto'o de se faire une place. Donc, il est obligé de chercher un prêt où il va accumuler du temps de jeu. Et un joueur, il a besoin de se consolider, à travers des minutes de jeu. Et là, avec Mallorca, ça me paraît très intéressant, il va pouvoir se développer et peut-être à moyen terme revenir au Real. Mais on en est encore très loin parce que pour l'instant, il doit se consolider dans une équipe qui fait quand même un championnat très intéressant.
Oui, et puis devant le Real Madrid, est-ce qu'il faut ?
Exactement, oui. On en parlait tout à l'heure, mais quand tu as investi sur un joueur français qui fait actuellement du remous de l'autre côté des Pyrénées, c'est très compliqué pour Eto'o de venir derrière.
Effectivement. Alors c'est difficile de le savoir maintenant, mais il faut pas dire qu'il a pas encore 20 ans. Mais est-ce que Eto'o, il a le profil pour devenir, disons, le successeur de Roger Milla, François Mbembe, Patrick Mboma, qu'on connaît bien en France, Patrick Mboma, François Mbembe aussi d'ailleurs, avec les Lions Indomptables.
Moi, tu sais, FM, moi, je suis très prudent sur les jeunes joueurs qui arrivent dans le football, enfin dans le concert du football mondial. Tu as évoqué des noms, c'est des joueurs qui sont prestigieux, mais c'est des joueurs qui ont plutôt marqué leur empreinte sur le tas, c'est-à-dire Roger Milla, pour ne citer que lui, il est à un âge assez avancé quand il a fait ses exploits en 90. Patrick Mboma, il est assez mature quand il est arrivé. C'est ça le football en 2000, c'est-à-dire que tu dois prendre du galon avant de performer. On ne peut pas arriver tout de suite et performer avec de grosses performances. Donc j'aime à penser que Samuel Eto'o, sur la durée, il pourra apporter quelque chose de très intéressant. Et de là à passer au-dessus de ces glorieux anciens, c'est une grosse question.
Il y a eu de nombreux matchs opposant des équipes du haut de tableau à celles qui luttent pour le maintien. Le seul match 100% Segunda Tabla, c'était Numancia Oviedo, et j'ai envie de dire qu'à l'image du Betis, le Real Oviedo a, semble-t-il, de la qualité, mais quand on regarde le classement, c'est la relégation qui se profile avec pour le moment cette 19e place et deux points perdus de dernière minute à Solia, puisque Deli Valdés avait ouvert le score à la 5e minute et que Numancia a égalisé à la 80e. Pourtant, il y a aussi des noms connus dans cette équipe, Elton.
Oui, mais pour autant, tu vois que c'est une équipe qui est en proie au doute, c'est une équipe qui a les symptômes d'un candidat au maintien, c'est-à-dire que tu marques rapidement, t'es pas capable de capitaliser, à l'image du Betis sur son match à Sorayo, t'es pas capable de capitaliser sur un deuxième but, et au final, t'encaisses un but dans les derniers instants. Donc, on voit bien que, quand bien même t'as des joueurs qui sont très intéressants et qui ont vocation à évoluer plus haut, tu vois que c'est une équipe candidate au maintien et qui se dirige tout droit vers la Segunda.
Oui, mais il y a des joueurs quand même qui ont le niveau, qui ont joué des grands matchs de Coupe d'Europe. Je pense à Franck Rabarivoni et Frédéric Danjou. L'un titulaire, Danjou n'a pas joué ce week-end, mais les anciens Auxerrois, ils ont quand même un passif en Coupe d'Europe. Il y a le Russe Onopko, il y a le Portugais Paulo Bento aussi. Et puis bon, il y a un joueur qu'on connaît très bien en France, qui a joué au PSG, Julio César Deli Valdés, le Panaméen, qui, comme on dit, il te garantit ses 10-15 buts à chaque saison. C'est quand même un énorme appui d'avoir un attaquant de cet acabit-là devant.
Ouais, mais pour autant, ça met en relief le niveau de la Liga où aucun point n'est gratuit. Et donc, à partir du moment où aucun point n'est gratuit, les joueurs, quand bien même ils sont de renom, ils doivent quand même évoluer face à d'autres adversaires qui ont des qualités à faire valoir. Et donc, on voit bien que Oviedo n'est pas à exempter. Oviedo n'arrive pas à prendre des points.
À présent, dans le bas tableau, nous allons parler de deux monuments en péril, l'Atlético de Madrid et le Séville FC. Les Colchoneros ont perdu à José Solilia contre le Real Valladolid, et ils ont buté sur un très très bon César Sanchez dans les cages de Pucela. Et on a du mal à le dire, encore moins à y croire, mais l'Atlético peut-il descendre en Segunda 4 ans après son doublé Liga Copa del Rey?
Ce que je disais pour le Real Betis, ce que je disais à l'instant pour Oviedo, vaut tout aussi pour l'Atlético de Madrid. Tu sais, FM, c'est Cruyff qui disait ça. Construire, c'est très difficile, mais détruire, c'est très facile.
Ils ont un expert en destruction à l'Atlético Madrid, avec, en la présence de Jesús Rilegil, le président, Lénine Arabe, le président de l'Atlético.
Exactement. C'est pas anodin que je dis ça, parce que Jesús Rilegil est actuellement impliqué dans des affaires un peu très compliquées pour lui, donc ça peut impacter le club de loin. Et donc, on voit bien une équipe qui, sur le plan footballistique, n'y arrive pas. Quand bien même avec Hasselbaink, qui est un buteur qui évolue dans les hautes sphères de la Liga, et pour autant, ça suffit pas. Et on voit une équipe, à partir du moment où tu te déplaces à Valladolid, dans un contexte où il y a un gardien qui est en feu sur ce week-end-là, c'est très compliqué pour récupérer des points. Donc aujourd'hui, l'Atlético, comme tu as dit, c'est un monument en péril.
Et oui, comme à l'image de Deli Valdés à Oviedo, et même, j'ai envie de dire, il est quand même la catégorie au-dessus. Dimitri Hasselbaink est le meilleur buteur de championnat, ex aequo avec Sava Ballesta du Racing Santander, mais meilleur buteur, il a 21 buts, et l'Atlético stagne dans la zone rouge, quoi.
Comme quoi, il n'y a rien qui est acquis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu peux avoir le meilleur buteur, il faut quand même composer sur une défense qui soit hermétique. Et on sait très bien que pour gagner ton maintien, il va falloir s'appuyer sur une défense qui soit davantage plus solide et qui encaisse moins de buts.
Mais tu en as parlé, ce qui se passe tout autour du club ne peut que déstabiliser l'effectif, parce que c'est pas possible de quand quasiment chaque jour il y a une nouvelle affaire, que ce soit à Malvelia ou même qui concerne quand même d'assez près l'Atlético. Au niveau de la sérénité, ça devient pénible, quoi. On peut pas avancer dans telles conditions.
Exactement, surtout qu'on sait que la présidence de Jesús Rilegil, ça reste un président qui est très omnipotent, et donc qui n'est pas non plus un président effacé. Et donc par rapport à ça, le fait de ne plus avoir cette figure tutélaire entre guillemets pour l'instant, ça peut impacter l'équipe.
Alors, si l'Atlético n'est qu'à un point de la 17e place, en revanche, pour Séville, ça semble complètement plié. Alors, nouvelle défaite à Santiago Bernabéu. Alors, effectivement, c'est pas le désordre de perdre à Santiago Bernabéu, mais le Real Madrid a quand même plié l'affaire en 45 minutes et 3 buts, et notamment 2 passes du latéral brésilien Roberto Carlos. Ils ont perdu 3-1. Alors, Raúl 16e, Guti 29e et Molientes 33e. La réduction de l'écart de Juan Carlos, c'est la 90e, donc c'est quand même très anecdotique. Les Palanganas, ils sont à 9 points de la ligne de flottaison. Alors l'affaire est entendue déjà.
Très honnêtement, je vois pas comment ils pourraient se maintenir, et je pense qu'il faut davantage regarder vers la Segunda l'année prochaine et commencer à se restructurer de manière administrative avec des choix qui sont très importants pour essayer de remonter dans la foulée, parce que ce qu'on a vu au Bernabéu sur la première mi-temps, c'est un monologue du Real, c'est-à-dire que on a vu une équipe qui a marché sur son adversaire, une équipe qui a marqué très rapidement, et en face du côté du FC Séville, on a vu une équipe qui n'avait pas de réponse tactique et qui était très fragile défensivement. Alors en effet, il marque à la dernière minute, et ça reste un but anecdotique.
Oui, et puis est-ce qu'on peut faire un scénario catastrophe avec les deux clubs de Séville qui seraient en seconde l'année prochaine? T'imagines le truc?
Ah, ce serait très compliqué pour le derby, surtout. Enfin, dans l'absolu, il y aurait un derby, mais pas là où on imaginait.
Et puis bon, pour le à l'image du Betis, qui a aussi beaucoup de problèmes institutionnels, on se dit que Séville, il va falloir qu'ils réfléchissent recréer un secrétariat technique pour recruter, parce que là l'équipe est quand même pas très forte, quoi. On semble c'est inexorable leur descente, parce que collectivement ils n'y arrivent pas.
Oui, ils peuvent pas capitaliser sur un buteur comme Hasselbaink du côté de l'Atlético de Madrid pour te donner un wagon de but qui pourrait te laisser penser que tu pourrais te sauver. Il n'en est rien du côté du FC Séville.
Alors forcément, quand on parle du Real Madrid, on est obligé de dire un mot sur le cas de Nicolas Anelka. L'enfant terrible du football français, qui a voulu s'entretenir avec les dirigeants Meleng pour valider ses exigences, notamment son rôle de titulaire et sur le jeu du Real Madrid, rien que ça. Alors Christian Carambeau, il a essayé de le défendre en conférence de presse, mais ça n'a pas empêché Anelka d'écoper de 45 jours de suspension de la part du club. Et en Espagne, on se demande déjà si l'ancien Parisien rejouera un jour pour la Casablanca. À ton avis, c'est plié, c'est extrêmement rare d'être suspendu aussi longtemps. Dans le vestiaire, il doit être détesté, Anelka. Je ne comprends pas Il est jeune encore, Nicolas Anelka, il a beaucoup de talent, mais alors on comprend pas vraiment le fil conducteur de sa carrière. Il est déjà son 3e club, et là, c'est quasiment terminé son aventure en Espagne.
Ça me paraît très 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 improbable de revoir Nicolas Anelka sous le maillot madrilène la saison prochaine. Pour la saison à venir, pour cette saison-là, pardon, je ne sais pas, parce que on peut penser que Del Bosque, il pourrait être pragmatique et se dire que dans la perspective de la Liga, dans la perspective de la Ligue des Champions, il pourrait réintégrer Nicolas Anelka, mais ce serait sous certaines conditions. Mais pour en revenir au cas bien précis d'Anelka, c'est du gâchis. C'est du gâchis, pourquoi ? C'est un joueur, comme tu l'as dit, qui a énormément de talent, et ça ne suffit pas forcément au Real. Le Real, il ne faut pas oublier qu'il y a moins de 2 ans, le Real était champion d'Europe. Le Real se destine à gagner une deuxième ligue des champions dans les mois à venir. Donc par rapport à ça, Nicolas Anelka, il doit se mettre au diapason. Alors c'est vrai que ça a un gros problème pour l'effectif. On l'a bien vu, le pauvre Carambeu, il était en conférence de presse. On lui a refilé la patate chaude. Il n'avait pas des éléments de communication très intéressants pour tenter de le défendre. Mais pour autant, tu vois, Nicolas Anelka, moi, ça me paraît très très difficile d'inverser la situation en sa faveur.
C'est vrai qu'en plus, il y a l'Euro en fin de saison et il y a du niveau en équipe de France. Déjà, il a pas fait la Coupe du Monde en 98 parce que selon Aimé Jacquet, il était trop jeune et qu'il aurait d'autres opportunités. Mais là, il y a pas beaucoup de mois avant des semaines avant la liste de Roger Lemaire. Est-ce que tu penses qu'il aura le temps de se refaire, parce qu'on sent que Del Bosque est irrité, que d'après les rumeurs qui viennent d'Espagne, c'est Carambeu qui fait l'intermédiaire avec le reste du vestiaire. Ça semble quand même bien bien ensablé pour Anelka, cette histoire.
Oui, mais FM, tu l'as dit, tu l'as évoqué, en 98, pourquoi Anelka n'est pas retenu, c'est en raison de sa jeunesse. 2 ans plus tard, l'équipe de France est championne du monde, et cet argument-là, quand tu vois un joueur qui se fait suspendre par son club pendant 45 jours, est-ce que tu as envie d'emmener Anelka en Belgique ou aux Pays-Bas, en sachant que ça peut être une bombe à retardement potentielle? Bon, après, on sait que Roger Lemaire, pardon, est paternaliste, il est capable, entre guillemets, de le driver, mais pour autant, tu n'as pas envie de t'embarrasser d'un cas qui pourrait te filer entre les mains.
Mais après, c'est vrai qu'avec le maillot bleu, il a quand même montré sa valeur. Il y a ce doublé à Wembley qui plaide pour lui. Bon, le problème, après, c'est qu'il ne marque pas beaucoup avec le Real Madrid. On se dit qu'il y a peut-être qu'il n'y a qu'un exploit en Ligue des Champions, faut qu'il marque, parce qu'il faut que ce soit décisif en Ligue des Champions. Là, il y a les quarts de finale qui vont bientôt arriver, pour qu'il puisse s'en sortir avec l'équipe de France. Parce que là, à l'heure actuelle, il faut déjà qu'il soit pardonné par son club, par l'entraîneur et par le vestiaire. Ça fait quand même beaucoup d'éléments, ça défaveur.
Et maintenant, ce qui pourrait aussi le sauver, c'est que quand tu vois le panorama des attaquants de l'équipe de France, on ne peut pas dire que ça respire non plus la grande conscience dans leurs clubs respectifs. Et comme tu l'as dit, le fait d'avoir marqué à Wembley dans un match qui a une portée symbolique, ça pourrait l'aider.
Je dirais même historique.
Historique, bah oui, bien sûr. Et ça fait toujours du bien de battre les Anglais.
Ça c'est bien vrai. Mais on reviendra dans les prochaines semaines sur le cas Anelka, on va dire, parce que ça, en Espagne, ça va faire jouer. Surtout qu'en plus, ça peut libérer une place pour Morientes avec Raúl devant. Ils vont pas se priver. À mon avis, ça c'est clair que les carrousels et les teldo, ils vont beaucoup beaucoup en parler. Match un peu des extrêmes aussi, à l'image de ce Real Madrid-Séville. Racing Santander qui est 16e contre le Real Zaragoza 4e au Saldinero. Et c'est Zaragoza qui a réalisé la très bonne opération, puisqu'ils ont gagné. Un match assez fou. Je ne sais pas si tu l'as vu, Elton, parce que les Cantabres, ils étaient bien partis pour gagner avec un but de Pedro Munitis dès la 15e minute. Et puis après, c'est devenu de la folie en fin de match. Alors 77e minute, expulsion d'Espina. But de Jordi à la 79e. Les joueurs du Racing ont cru qu'il avait marqué de la main, et c'est vrai qu'il a fallu voir plusieurs fois le ralenti pour être sûr qu'il n'ait pas effectivement pas marqué de la main. Attroupement, expulsion du gardien Ceballos, qui a ensuite mis, comment on pourrait appeler ça, un petit coup de tête à l'arbitre, en fait.
Bon, c'était une marque d'affection, on va dire.
Oui, voilà. Et puis en fait, je pense qu'il était jaloux de sa moustache, il a voulu voir comment il l'a peigné. Et à la 81e, Yoldi qui met un doublé et qui permet aux Magnos de conforter leur 5e place. Match complètement, c'est le match fou de la semaine, j'ai envie de dire.
Oui, c'est ça, on a vu un scénario fou avec beaucoup de péripéties à l'intérieur du match. Au final, la logique est entre guillemets respectable. À partir du moment où Zaragoza gagne le match, ça a été très compliqué en effet, c'est-à-dire que se déplacer du côté de Santander, c'est toujours compliqué, quand bien même c'est une équipe qui est en bas de classement. On a vu pendant très longtemps un Real Zaragoza qui a buté sur l'adversité. Et on a vu Jordi qui sort du bois pour marquer ce doublé salvateur et qui est très important dans la perspective des places européennes.
Ah, moi, j'ai quand même bien de. J'aimerais bien que Saragosse aille jouer Coupe d'Europe. J'ai encore en mémoire ce but incroyable de Naïm et puis le but de Snyder aussi, quand il a ouvert le score contre Arsenal en finale de la Coupe des Coupes en 95. C'est vrai que
Au
Saragosse,
point.
c'est une belle équipe et une belle aficionne.
Exactement, ouais, par rapport à ce qui s'était passé au Parc des Princes, c'est vrai que ça sera un clin d'œil du destin très très joli.
On va s'arrêter un peu plus sur ce match parce que il y a encore une voire deux places à se faire en attaque pour l'Arlor en prévision de l'Euro cet été. Alors Juan Ignacio Camacho, il doit faire un choix parce que voilà, il y a encore un strapontin, peut-être deux. Et il y a à Santander deux coéquipiers qui sont également concurrents dans cette course. C'est Pedro Munitis qui a marqué ce week-end et Salva Ballesta qui est actuellement le co-meilleur buteur de la Liga avec Hasselbeink. Alors est-ce que tu vois l'un des deux y aller, les deux, ou alors un autre nom comme Tamudo ou comme Fernando Morientes qui a déjà disputé le Mondial 98, ou alors ça c'est un vœu pieux parce que je pense que c'est pas possible. Kiko Narváez qui vit une saison difficile, qui a eu des blessures, mais qui a quand même une très grande expérience des compétitions. Il a notamment été décisif ça remonte aux Jeux Olympiques 92, mais bon, c'est pour ça. Mais bon, moi je suis pas objectif avec El Arquero, parce que bon, voilà, même si ça fait un an et demi qu'il n'a pas été convoqué, je désespère pas. J'adore tellement ce joueur que je veux le voir tout le temps. Moi, je le mets titulaire à côté de Raoul tous les jours. Mais bon,
Ah, mais
ça
toi,
semble
si
difficile.
depuis que tu as vu Espagne-Bulgarie, c'est bon.
Oui, c'est ça. Ouais, bon, après, évidemment, c'était élimination. Mais bon, comme on disait à Cadiz à l'époque, parce qu'il débarquait de la cantera de Cadiz, c'était Kiko Solution. Donc, pourquoi? Moi, je pense que ça peut être une bonne saison, mais après, il faut pas rêver. Ça semble terminé pour lui avec la sélection. Mais entre Munitis, Salva ou Tamudo ou Morientes, tu prendrais qui?
Mais tu sais que c'est un cas très très complexe, FM, à partir du moment où tu as deux joueurs qui évoluent dans un même club. On a connu ça en France avec Trezeguet et Henry en 98. De là, penser que l'Espagne va s'inscrire dans les pas de l'équipe de France et gagner l'Euro, je n'y crois pas pour l'instant. Mais pour autant, c'est un cas très compliqué. Moi, j'aime à penser que je partirai avec Munitis, qui présente l'avantage d'être ce joueur qui est percutant, qui est capable de faire des différences en un contre un et qui est capable de marquer. Ça peut avoir son atout sur les phases éliminatoires ou à partir du moment où tu as des matchs qui sont très serrés, cette capacité à provoquer des fautes, c'est toujours très intéressant.
Ouais, mais Salva Valies, t'as quand même sur la valeur sportive 21 buts quand même. Après, peut-être aussi que ses opinions politiques ne vont pas convenir au moment de. Alors lui, pour le coup, il est ultra espagnol, ultra 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 espagnol.
Oui, je vois, oui, c'est un beau portrait que tu dresses.
Bah oui, parce qu'en fait, son père est dans la Guardia Civil et donc voilà, il a comment dire les réactions de certains joueurs du Barça ne lui plaisent pas du tout.
Ah oui.
Donc, par rapport au Pays Basque aussi, donc lui, il est vraiment très 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 attaché à l'Espagne et peut-être même un peu trop par moment. Tu me parles de Munitis, mais Tamudo Morientes quand même. Alors il a pas du tout la cote avec Camacho. Alors ça je ne comprends pas parce qu'en plus là il a encore marqué ce week-end Morientes et il joue avec Raúl. Comme Raúl devrait être l'attaquant titulaire si aussi de la sélection, Morientes ça pourrait être le complément parfait.
Ah, mais au moins, ça fera dire par rapport à ce que veut Camacho qu'il n'y a pas une logique de clubisme. Dieu sait qu'en Espagne, c'est très important. Le fait que Camacho hésite, enfin, pour l'instant, ne compte pas sur Morientes, te fait dire qu'il a d'autres options en tête. Peut-être que Morientes, il a un profil assez particulier, c'est davantage un attaquant de surface, et Camacho, il n'est pas très enclin à lui faire une place.
Ouais, mais bon, quand même, imagine, enfin, je sais pas, c'est tellement une Liga serrée que le Real Madrid peut encore être champion. Ils sont encore en lice en Coupe d'Europe. Imagine que Molientes, s'il fait une, est-ce qu'il vaut pas mieux avoir un joueur qui joue au Real Madrid de ce calibre-là plutôt qu'un Munitis ou un Ballesta qui finalement sont des bons attaquants, mais bons attaquants du 16e du championnat.
Et c'est l'histoire de beaucoup de sélections, c'est-à-dire que le sprint final déterminera la liste finale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des joueurs qui se tiennent vraiment pour aller chercher ce strapontin pour la Belgique et les Pays-Bas, Morientes peut compter sur le fait qu'il évolue déjà au Real, qu'il évolue dans une équipe qui est en course pour le titre national et il évolue dans une équipe qui est en course pour le titre européen à travers la Ligue des Champions. Donc que ça pourrait être son salut.
Bon, en tout cas, on suivra ça de près. Je pense qu'on fera un podcast spécial après l'annonce de la liste de cas matchs, mais il y aura évidemment beaucoup beaucoup de choses à dire. Il y a eu un derby du Pays Basque ce week-end à Mendizorroza, puisque le Deportivo Alavés, deuxième du classement, a battu la Real Sociedad, 17e. Et pourtant, les Cholioldin ont failli avoir la peau du deuxième, puisque il a fallu attendre l'entrée de Javi Moreno pour débloquer la situation, parce que Kokhlov avait ouvert le score dès la 27e minute. Et ça s'est décidé en toute fin de match avec un premier but à 78e et un deuxième à la 87e. Javi Moreno aussi, il a peut-être peut-être que lui il pourrait sortir le chapeau de Camacho aussi. Hein.
Oui, c'est une option, surtout qu'il met un doublé salvateur après être rentré à l'heure de jeu. Et donc c'est une rentrée qui est déterminante dans un match qui est très particulier. On parle d'un derby. On aurait pu penser, à partir du moment où tu vois Alaves qui est deuxième du championnat, la Real qui est 17e, c'était sur le papier un duel déséquilibré. Mais enfin, quand on parle d'un derby basque, les écarts de niveau sont très très proches. Et donc on a vu Javi Moreno qui a été décisif et qui pourra avoir son mot à dire de la perspective de l'Euro.
Et puis ce deuxième but est exceptionnel.
Ouais, le deuxième but est exceptionnel et qui est très très important dans la perspective de se qualifier pour la Ligue des Champions notamment.
Comment on pourrait le décrire? Il met une volée, mais il est quasiment, comment dire, il est trois quarts d'eau au but, on a l'impression. Très technique d'aller mettre une frappe pareille en fin de match. Il est mis au meilleur endroit.
Ouais, surtout que voilà, on est dans un espace confiné, donc il y a très peu de marge pour pouvoir faire cet enchaînement, et pour autant il arrive à le faire. Et j'ai aussi beaucoup aimé son premier but, c'est typiquement le but de l'attaquant, c'est-à-dire il va mettre son corps en opposition par rapport au défenseur central, il va finir en puissance. Donc il a un éventail qui est très intéressant pour Camacho.
C'est vrai que lui, on en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai, il a le profil qui est sympa. Et puis en plus, on sait que dans les vestiaires, quand c'est l'invité surprise, généralement, il se fait tout petit et il croque dans le ballon dès qu'il a un peu de temps de jeu.
Oui, voilà, lui, il a rien à perdre. Et à partir du moment où il a rien à perdre, il peut arriver avec son enthousiasme. Et après, on a beaucoup d'histoires de ce genre sur les compétitions internationales où il y a le joueur qui n'était pas prévu au départ, qui amène son enthousiasme et qui est décisif.
Alors avant de passer à la deuxième partie consacrée au Deportivo de la Corogne, on va parler de ce grand classique du football espagnol, Athletic Barça, dans la cathédrale de San Mamés. Classique, mais il n'y a pas eu beaucoup de suspense. 4-0 pour les Blaugrana, c'est sans appel, avec un doublé de Philippe Cocu, le néerlandais, et une doublette Luis Figo, Patrick Kluivert de Gala. Alors le but de Kluivert, comment on pourrait décrire cette symbiose entre Figo et Kluivert sur ce but?
Bah, pour le but de Kluivert, on pourrait accoler le terme de vaseline. Les Espagnols adorent ce terme-là. En plus, sur son mauvais pied, ça se passe de commentaires. Il y a juste qu'à apprécier ce qu'il a fait. Et donc, c'est un Kluivert qui a été en grande conscience et qui met un super but sur un terrain qui est très difficile en général pour le FC Barcelone. On sait que c'est Johan Cruyff qui se plaignait du terrain qui était très petit quand le Barça se déplaçait du côté de San Mamés, alors qu'au Camp Nou, ils sont habitués à des dimensions plus large. Là, ils sont arrivés, ils ont mis 4-0.
Ouais, c'est vrai que c'est un terrain estalèche, on a envie de dire, très étroit, puis l'état de la pelouse n'est pas non plus extraordinaire.
C'est ça, et pour autant, ils ont mis 4-0 en étant un vainqueur avec une grande supériorité sur un terrain très difficile, donc c'est ça à mettre au crédit des hommes de Luis Van Gaal.
Et puis voilà, pour résumer ce but, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Kluivert à la limite du hors-jeu, Figo lui transmet une balle parfaite et Kluivert lobe du gauche, voilà, en toute tranquillité, j'ai envie de dire. Puis après, Kluivert était sympa parce qu'il a offert le quatrième but à Figo. Ça prouve qu'il y a une très très bonne entente. Et justement, parlons un peu de Luis Figo, parce qu'on a l'impression qu'il a jamais été aussi fort. Et là aussi, il y a l'Euro qui se profile et donc la génération dorée portugaise arrive à maturité, et là les Quinas, ils font partie des très 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 grands favoris. J'ai l'impression qu'ils n'ont jamais eu une équipe aussi forte.
Exactement, tu as parlé de cette génération-là qui a gagné le championnat du monde junior avec Carlos Queiroz sur le banc. Ils ont aussi une revanche à prendre par rapport à 98 où ils étaient absents, donc c'est un acte manqué pour cette génération qu'on présente comme une génération dorée. Et tu as évoqué Luis Figo qui est le leader de CFC Barcelone, c'est le capitaine, et donc il arrive dans la perspective de cet Euro avec l'ambition de gagner ce titre, le titre qui récompenserait 10 ans pour lui en sélection.
Ouais, bah, le milieu de terrain avec Rui Costa, rien d'y penser.
Ah oui, ils ont des qualités à faire valoir hein, par rapport à d'autres adversaires qui vont arriver peut-être moins fournis qualitativement.
Ouais, c'est un très très gros outsider derrière la France, que la France fait figure de grandissime favorite, mais quand même Portugal, ça va valoir le coup d'œil techniquement, j'ai envie de dire. Je pense qu'on va se faire vraiment plaisir en regardant cette équipe cette année.
Mais tu dis ça, mais ça a tout d'une finale, ça serait une belle finale France-Portugal du côté de Rotterdam, du côté du stade de Kuip. Et puis on est assez habitué aux demi-finales France-Portugal depuis le Vélodrome.
Ouais, c'est vrai, le fameux but de je pense à Domergue. Dans une ambiance, alors ça c'est peut-être le plus grand match de l'histoire de l'équipe de France, sortie évidemment de France 38. Mais c'est vrai que. Qu'est-ce que ça aurait donné un France-Croatie au Vélodrome quand même? Ça aurait été du même niveau, parce que ce match contre le Portugal est extraordinaire. On dirait que c'est un France-Allemagne-Séville réussi, en fait, on dirait.
Oui, c'est ça, avec en point d'orgue Tigana qui fait sa remontée extraordinaire pour Platini. C'est vrai que t'as tous les ingrédients pour dire que c'est un match historique, ça l'est pour l'équipe de France dans son histoire.
Et puis bon, un France-Portugal, ça fait un peu derby, j'ai envie de dire. Ce serait sympa d'avoir une finale comme ça.
Exactement, même si ce serait au stade de Kuip ou peut-être même avant, suivant le parcours des deux formations.
Évidemment. C'est la deuxième partie de Folia Liga Podcast, toujours avec Elton Mokolo en plateau. Nous allons parler du Deportivo de La Coruña. Alors, il reste 10 matchs à disputer dans cette Liga très, très, très homogène. Et on se dit que cette équipe-là, elle a tout pour enfin décrocher le titre. Surtout après cette victoire au Riazor dimanche contre Valencia, qui est 6e au classement. Alors, ouverture du score à la 24e de Fran sur un centre de Manuel Pablo. Et deuxième but signé Flavio Concessant. C'est pas une passe décisive de Roy Mackay, mais il était quand même à l'origine du but.
Ouais, c'est surtout Cazares il est pas très à propos sur sa sortie.
Oui, mais certes, on ne dit jamais de mal de Santiago Cazares ici. C'est une règle de base ici. Pour revenir au déport, on se rappelle tous du penalty manqué par Miroslav Djokic en 94, justement contre Valence à la dernière journée du championnat. Et le déport avait laissé filer le titre à toute dernière seconde de la saison. Et bon, alors à cette époque, il faut aussi rappeler que la Liga était à 2 points, parce que la victoire à 3 points est arrivée en 95-96, l'année du doublé de l'Atlético. Les Blancachis, ils ont souvent été proches ces dernières années, mais sans jamais y parvenir. Cette fois, tu penses que c'est la bonne, ou alors on va toujours avoir le Real Madrid ou le Barça qui va se réveiller au dernier moment, voire à l'Alavés, pourquoi pas, qui pourrait les devancer.
Bon, moi, j'aime à penser que les planètes sont alignées pour voir le Deport gagner ce titre. Tu l'as évoqué, à partir du moment où le Barça et le Real sont pas aux deux premières places du classement comme on est assez habitué, à partir du moment où le Super Deport est toujours placé mais jamais gagnant, ils ont quand même accumulé une certaine expérience pour pouvoir gérer ce genre de sprint. À partir du moment où tu as été demi-finaliste en Coupe des Coupes face au PSG, à partir du moment où tu as été deuxième du championnat derrière le FC Barcelone, tu as quand même des arguments à faire valoir pour gagner enfin ce titre qui est tant attendu du côté de la couronne, qui récompenserait aussi une politique sportive qui a été à risque à partir du moment où tu as pris des joueurs qui ont été des joueurs de valeur, des joueurs de qualité qui t'ont apporté un saut qualitatif.
Oui, enfin, il y a eu pas mal de grognards, des gens qui étaient en quête de rachat. Je pense notamment à Donato, qui a passé une très mauvaise période à l'Atlético, et on parlait de Jesús Rilirril. Ça passait, le courant ne passait absolument pas entre les deux, et Donato a été impérial au départ. Justement, cette courbe de progression, elle est singulière, parce qu'il faut se rappeler que, alors c'était évidemment, c'est au début de la décennie, mais en 91-92, les Galiciens sont sortis au barrage contre le Betis. C'est-à-dire des barrages de descente. Alors, le Betis voulait remonter, ils étaient en Segunda et ils en sont sortis comme ça. Et puis après, ils ont terminé sur le podium la saison suivante derrière le Barça et le Real Madrid. Deuxième, comme on l'a dit, en 93-94. 94-95, ils sont tombés deux fois deuxième, pardon. Ils ont été en 93-94 et 94-95, que je ne m'embrouille pas dans les 90, avant de retomber au 9e rang, puis de nouveau 3e avec notamment Rivaldo, qui fait la joie du Barça, qui n'est resté qu'un an. puis sans lui 12e en 97-98 et 6e la saison dernière. Est-ce qu'on pouvait présager d'un tel retour sur le devant de la scène, je veux dire à cette hauteur-là, c'est-à-dire proche d'un titre de champion? Parce qu'on avait plutôt l'impression que ça allait être un club qui après avoir eu deux très bonnes saisons, après tu parlais de la demi-finale de Coupe des Coupes, allait retomber dans des sphères plus à la hauteur des villes moyennes espagnoles, on a envie de dire, en termes de population, je parle.
Oui, parce que tu fais bien de dire ça, la Corogne, c'est 250 000 habitants. Au regard de l'Espagne, au regard des autres villes espagnoles qui sont nettement plus peuplées, je fais référence à Barcelone, Madrid, même Valence, la Corogne, ça reste une petite ville. Mais pour autant, c'était très difficile de prévoir ça. Moi, je pensais que le Barça, sur la lignée de sa Liga remportée, de ses deux Ligas de suite remportées, irait aller chercher ce troisième titre consécutif, peut-être secondé par le Real. Et pour autant, on a vu que par rapport au pronostic qui avait été donné en début de saison, on voit que la Corogne est plus que jamais favori pour aller gagner ce titre de Liga, mais c'était quelque chose qu'on ne voyait pas venir.
Ouais, parce que quand on parle de petites villes, pour l'instant, la ville qui a eu hors des grandes cités espagnoles. La plus petite, c'est San Sebastián avec la Real Sociedad, 120 000 habitants. Et depuis, il n'y a pas eu de petite ville qui a réussi à remporter titre. Alors évidemment, il y a Real Madrid, le Barça qui sont omnipotents et qui gagnent souvent. Il y a eu évidemment l'Athletic Bilbao, Valence, mais Valence ça fait très longtemps. Qui n'ont pas gagné le titre, ça doit remonter aux années 70 si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est l'impression que cette année, puis bon, devant Bebeto Makai, quoi, Fran, on préfère la liste des joueurs qu'à le Deport, c'est impressionnant.
Oui, et ça serait aussi un joli retour en arrière par rapport aux Ligas des années 80 où on avait d'autres clubs que Barça, Real, et je mettrais aussi l'Atlético de Madrid qui remportait la Liga. Après, c'est vrai qu'ils peuvent compter sur une armada offensive qui est très intéressante, à l'image de Makai qui a terrassé à lui tout seul le FC Barcelone. Ils ont aussi gagné 5-2 avec la manière face au Real. Ils ont battu le Celta Vigo, ce qui fait toujours plaisir aux supporters du Deport. Donc, autant dire qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'arguments à faire valoir. Bon, après, il y aura un test majeur la semaine prochaine face au FC Barcelone au Camp Nou.
Tu l'as dit. Et puis, en attaque, il ne faut pas oublier un de leurs meilleurs buteurs, Paoletta, qui maintenant qui est entre deux eaux, j'ai envie de dire. Est-ce que son époque est peut-être pas un peu terminée maintenant du côté du Deport? En fin de saison, il devrait partir.
Oui, moi, je pense qu'on devrait se diriger vers un départ parce que le Deport s'appuie sur une attaque qui marche. Et Paoletta, on ne sait pas s'il sera à l'Euro, ça pourrait être compliqué suivant son statut en club. Mais derrière, je pense que passer l'Euro, il devrait se destiner vers un autre club.
Puis bon, parmi les joueurs qui me plaisent beaucoup, alors évidemment Nourdine Naibet, l'ancien Nantais, le Marocain, et puis Djalminia, merveilleux, oui. Et puis Mauro Silva aussi. Ah, des joueurs, Djalminia quand même, c'est quelque chose comme joueur.
Ouais, c'est un joueur qui est spectaculaire, qui incarne bien ce joueur brésilien. T'as évoqué ici Mauro Silva. Mauro Silva, pour aller lui prendre le ballon, dès qu'il se met en opposition, c'est très compliqué.
Et puis sans oublier le Real, qui a quand même un stade au bord de la plage. C'est incroyable. Oui, c'est un super endroit, ça. Le week-end, tu vas à la plage, après tu vas au match, tu fais l'inverse, c'est royal.
Oui, en plus, tu sais que tu as un public qui est proche, qui peut être, entre guillemets, intimidant. Donc, c'est des arguments à faire valoir. Quand on sait qu'on arrive sur le sprint, les gens commencent à être fatigués. Donc, tu peux aussi capitaliser sur un public qui va t'encourager jusque dans les derniers instants.
Et pour terminer ce focus, un mot sur Iureta, qui est l'entraîneur de l'année, tout simplement.
C'est ça, mais ce serait d'ailleurs quand même ironique que l'ancien entraîneur du Celta apporte ce titre de champion d'Espagne au Deportivo.
Tu crois qu'il va retourner un jour à Vigo si jamais ils sont champions le Deport?
Ça me paraît très très compliqué. Ou alors ce sera un sujet de moquerie pour les supporters du Deport. Mais toujours est-il, pour parler de manière... C'est vrai que ce qu'il fait cette saison, c'est quand même fantastique. Il a réussi à assembler une équipe qui ces dernières saisons n'était pas non plus à la fête en Liga. Il en fait un candidat au titre. Il en fait un leader remarquable à 10 journées de la fin, donc tout le mérite lui revient.
Oui, mais on se demande bien s'ils vont en fait, on se demande, il y a un petit côté, est-ce qu'ils vont encore se louper comme en 94, en fait. Mais je pense qu'ils ont appris de cette déception.
Oui, ils ont appris, c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où, quand bien même tu as perdu des titres importants, que ce soit en Liga, que ce soit en Coupe des Coupes, tu as quand même emmagasiné de l'expérience pour pouvoir gérer ce genre de situation. Et là, on voit bien que le Celta, ils ont quand même un petit matelas. Le Celta, je vais avoir des ennuis du
Attention à
côté
ce que
du
tu dis.
Depor. Oui, je vais avoir des ennuis du côté du Depor. Non, justement, le Depor, ils ont quand même un petit matelas qui est intéressant. Par rapport à l'AS, par rapport au Barça et par rapport au Real. Donc, tous les voyants sont entre guillemets au vert pour le Depor au moment d'attaquer ce sprint final.
Oui, effectivement. Souvent on dit l'histoire parle quand ça tourne bien. Des fois, c'est voilà. Alors souvent, ça tourne en faveur de la Casablanca ou des Blaugrana, parce que fatalement, au moins quand il y a cette expérience, même que même pas les joueurs ont connu, mais que le club a connu, à un moment on est porté par quelque chose de par un supplément d'âme, par quelque chose d'autre. Mais eux, c'est vraiment leur génération, et donc forcément, il y a quelque chose en plus, cette rage de dire non, on va pas, cette génération-là doit gagner quelque chose et elle va le gagner.
Tu fais bien de dire ça, FM, parce que tu as l'adhésion de tout un club autour d'un projet, autour d'un entraîneur, autour d'une équipe. Quand tu fais le comparatif, tu as le Barça où il y a quand même les problèmes relationnels de Van Gaal qui arrivent peut-être en fin de cycle. Tu as le Real avec l'affaire Anelka. On a évoqué l'Atlético de Madrid tout à l'heure. Donc à partir du moment où il n'y a pas adhésion autour d'une équipe, dans un club à l'intérieur, c'est très compliqué pour performer sur le terrain. Et là, contrario, le Deportivo, eux, ils se disent, c'est là nous ou jamais.
Alors, le prochain match, tu en as brièvement parlé tout à l'heure, mais Barça Deportivo de la Corogne va valoir très très cher ce match.
Et d'ailleurs, ça pourrait être symbolique, parce que si le Depor s'impose au Barça, ça pourrait faire office de passation de pouvoir. C'est-à-dire aller l'emporter au Camp Nou chez le champion d'Espagne en titre, ça serait bien pour ciseler ce titre de champion d'Espagne.
Et imagine si le Celta bat à l'Alavés aussi, ça veut dire que les rivaux pourraient aider le Depor à prendre de l'avance, ou en tout cas à ne pas perdre de points par rapport au Basque.
Bon, après, si on est taquin, on se dit que le Celta, bon, ils ont une place européenne à jouer, mais est-ce que, franchement, ils seraient vraiment énervés s'ils devaient perdre contre l'Alavés?
Je sais pas, non, je pense que il se ferait une raison.
Ouais, c'est
Il
ça.
se ferait une raison. Et puis on parlait de des problèmes dans d'autres clubs, les deux clubs de Madrid qui se rencontrent au Vicente Calderón, donc Atlético de Madrid, Real Madrid pour le l'Eterno Derbi. Ça aussi, Real Madrid a déjà réglé le compte de Séville. Ça pourrait être aussi la fin pour Atlético en cas de défaite contre les Merengues.
C'est ça, mine de rien, ça va être un week-end très intéressant pour le Depor, parce que dans le scénario très optimiste pour le Depor, tu t'imposes au Camp Nou, mais derrière, tu as le Deportivo Alavés qui est susceptible de perdre des points du côté du Celta, tu as le Real qui se déplace du côté de Calderón, donc c'est un week-end qui peut être très intéressant pour l'avenir du Depor.
Ouais, l'Atlético de Madrid, c'est vraiment la vie à la mort, ce match. Donc ils vont encore plus se débrouiller que d'habitude. Et puis on peut compter sur Jesús Gil pour mettre la pression dans les médias toute cette semaine, pour disons qu'il n'est pas très très ami avec beaucoup d'arbitres, ni beaucoup de ni beaucoup de décideurs du football espagnol, donc il va pas se priver.
Oui, bon, encore que Lorenzo Sanz avec l'affaire Anelka, et en ce moment il prend beaucoup de la place du côté des médias, donc il pourrait avoir son mot à dire aussi.
C'est pas faux, c'est pas faux. Pour terminer, alors évidemment, il reste 10 journées. Est-ce que tu crois que c'est fait occasion pour le Deportivo dans cette Liga où il y a beaucoup de points qui sont perdus en cours de route?
Moi, je pense que ça devrait être bon pour le Depor. Faut pas oublier que le Barça et le Real sont encore engagés en Coupe d'Europe. Ils risquent de perdre des points. Du côté du Depor, l'objectif est clairement la Liga. Donc, pour moi, ça devrait être bon.
Alors Alton, pour toi, on est au mois de mars, est-ce que tu penses que c'est déjà, il reste 10 matchs, est-ce que pour toi c'est d'ores et déjà fait pour le départ? Alors, effectivement, dire d'ores et déjà dans cette Liga où beaucoup de points sont perdus en route, c'est dire beaucoup, mais effectivement, le Real et le Barça ont l'air moins souverains qu'ils ont pu l'être d'autres années, et on se dit que le départ... Ils sont en pole position, ils vont pas lâcher le morceau et qui sont à 10 matchs de la fin quasiment champions.
Pour moi, c'est très bien avancé pour le Deport à partir du moment où eux sont focus sur la Liga. Du côté du Barça et du Real, on a quand même la Coupe d'Europe qui va prendre des forces. Du côté du Barça et du Real, on a côté barcelonais, je l'ai évoqué tout à l'heure, les problèmes relationnels entre notamment Luis Vangal et Rivaldo. Du côté du Real, Del Bosque est un entraîneur intérimaire et du coup, ça peut impacter l'équipe. Donc moi, je ne les vois pas, par exemple, gagner 10 matchs de suite en Liga et refaire leur retard. Donc il y a beaucoup de voyants qui sont ouverts du côté du Deport, quand du côté du Real et du Barça notamment, et il y a des voyants orange. Et donc ça ne devrait pas suffire pour ces deux clubs notamment.
C'est la fin de ce Folia Liga Podcast. Je remercie le grand Alton Mokolo d'avoir accompagné ce soir.
Merci à toi FM.
Et puis on a pris les notes pour tes pronostics pour l'Euro 2000 et pour le championnat. On verra pour la Coupe d'Europe aussi. Moi, j'annonce qu'il peut y avoir 3 clubs dans le dernier carré cette année. Voilà, je me lance. Je pense que cette Ligue des Champions sera espagnole.
Oui, parce que tout à l'heure, je parlais du Barça et du Real, mais il faut pas aussi oublier Valence qui aura son mot à dire. Mais après, par rapport à l'Euro, j'ai une exigence, que Patrick Kluivert soit le meilleur buteur à domicile.
Ah, ce serait pas mal, ça serait beau. Mais c'est pas impossible en plus.
Oui, c'est ça, parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour Patrick Kluivert, notamment depuis la Coupe du Monde 98. Donc, j'aimerais beaucoup qu'il soit meilleur buteur devant son public.
Ah, toi aussi, tu adores ce but en demi-finale contre le Brésil, ce but de la tête.
Ah oui, ce but, il est magnifique face à Taffarel. Bon, la suite est moins réjouissante pour les Pays-Bas, mais enfin, il a marqué un but qui m'a marqué.
Ah, c'est un des plus beaux de la Coupe du Monde pour moi. Bon, c'est pas le niveau de Dennis Bergkamp, mais quand même, celui-là...
Il y en a eu des très beaux buts au Vélodrome avec les Pays-Bas.
C'est vrai, c'est tout à fait raison. Je remercie Thomas Galarrague à la technique. Vous pouvez nous suivre sur folialiga.fr. Alors on sait que nos pages sont un peu lourdes là pour les modems 56K. Alors on débute, hein, donc voilà, on est désolé si c'est compliqué. On fait tout pour que ce soit le plus accessible possible, que ce soit nos audios et nos articles. Mais promis, on y travaille. Et puis nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast de Folia Liga. Allez, hasta luego, ciao, adeo.
Salut.